Une interpellation qui tourne au fiasco. Le commandant Charcot se lance alors dans une enquête dangereuse et éprouvante, en dehors de tout cadre légal. Une enquête où la science ignore l'éthique. Préparez-vous à basculer dans la faille et à vous confronter au pire de la nature humaine. La faille de Franck Tillier est disponible aux éditions Pocket.
Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Frédéric Lantieri et moi, l'histoire de Maurice et Sigler, retour à la case prison. Un épisode de Faites entrer l'accusé, réalisé par Bernard Farou. Bonne écoute.
Sous pression, Maurice craque. Oui, il s'est bien passé quelque chose ce jour-là.
Je crois qu'il se met à pleurer à ce moment-là. Et là, il nous dit très vite, je vais vous dire la vérité. Franck Sigler était là, c'est lui qui a manigancé, on va dire, la chose. C'est lui qui avait prévu, il a drogué Philippe Vuillet. Il lui a entravé les mains. On l'a emmené tous les deux à l'aide de la voiture de Philippe Vuillet. On l'a emmené en direction de Ensisheim. Et là, on est allé dans un petit bois. Et il nous raconte tout ça de façon relativement rapide et complète. On lui pose la question, mais est-ce que tu es prêt à nous emmener? Parce que le problème, c'est que le lieu qu'il nous décrit est un lieu difficile à trouver, perdu en pleine campagne, et nous dit, écoutez, il n'y a pas de problème, moi je suis prêt à venir avec vous, vous m'emmenez, je vous montre le chemin et je vous montre où ça s'est passé.
Avant que Maurice ne change d'avis, les policiers l'embarquent immédiatement à bord d'une voiture banalisée. Le chemin qu'il leur indique correspond au déplacement du portable de Philippe le 20 mars. Sorti de Mulhouse, autoroute, direction le nord de l'Alsace. Ensuite, Maurice leur fait quitter la voie rapide et passer par les villages de Pulversheim et Ensisheim. Arrivé là, il hésite. Il ne se souvient plus. Il se rappelle seulement qu'à un moment, ils sont passés sous une autoroute. Les policiers commencent à se demander si Maurice ne les mène pas en bateau. Et soudain, ce rond-point, ça lui dit quelque chose.
Brigadier chef Pierre H, police judiciaire de Mulhouse.
Donc nous avons pris directement à droite la petite route. On a poursuivi sur celle-ci et on a constaté qu'en fait elle passait sous l'autoroute. Et là, les souvenirs de Robert Maurice commençaient à nouveau à faire surface et il se rappelait également d'un la route qui partait, qui prenait un virage à gauche, et que c'était à cet endroit-là que se situait le petit chemin qui est coupé à travers champs. Là, voilà. Il s'est engagé sur ce petit chemin. Et Robert Maurice nous expliquait que normalement, si c'était le bon chemin, on arriverait au bout sur un petit carré de forêt.
Les policiers font encore 200 mètres. Et là, tout à coup, sur la gauche, des arbres et de vieilles machines agricoles. Quand il les voit, Robert Maurice n'a plus de doute. C'est là.
Robert Maurice, au sortir de la voiture, il reste à proximité immédiate du véhicule et il nous désigne tout de suite l'endroit qu'on désigne actuellement. Donc il reconnaît tous les lieux, il reconnaît les deux herses qui sont disposées de part et d'autre sous nos yeux. Et lui, il reste au niveau du véhicule et il désigne l'endroit, donc celui-là. Et il refuse d'avancer catégoriquement. Voilà, donc les lieux ont été un tout petit peu modifiés, mais l'endroit précis, c'était exactement là.
Là, devant eux. Sur le sol, un amas de branches.
Un tas de branchages sous lequel gît un corps, donc qui, d'après ce qu'on peut en voir, d'après les premiers, la première vision qu'on en a, qui est couché sur le ventre, face contre terre, et avec une sangle qui part de la base du cou et qui va sur la branche de l'arbre qui se trouve au-dessus de la victime. Le lien était attaché à peu près à cette hauteur-là. Comme dit, les lions ont été un petit peu modifiés, donc ça devait être à cette hauteur-là.
et on constate donc que cette sangle, elle est clairement en tension. Donc le haut du cadavre au niveau du tronc est légèrement soulevé par la sangle.
C'est assez étrange parce que, effectivement, de trouver la victime comme ça, ça fait penser à une exécution, les mains liées, d'autant plus qu'on constate également une plaie au niveau du crâne à ce moment-là.
Le visage de la victime est méconnaissable, mais pas de doute. Ses vêtements, cette montre, ce sont bien ceux de Philippe.
Jean-Pierre Vuillet, quelle est votre réaction quand vous apprenez qu'on a retrouvé le corps de votre fils, Philippe?
Quand on a eu le coup de fil, bon, c'est fini, quoi. C'est, voilà, c'est ça. C'est vraiment un coup de massue qui nous tombe dessus. Parce que pour nous, jusqu'à ce point-là, on n'était pas sûr encore que Philippe soit...
Vous aviez de l'espoir?
On avait de l'espoir, voilà, c'est ça.
Et vous avez ressenti quoi?
Disons qu'on avait vécu 3 semaines hyper difficiles. J'oserais pas dire que c'était un soulagement, mais au moins, on savait. Et ça, c'est important de savoir.
Le pire, c'est de ne rien savoir.
Je pense. Parce qu'on se pose des questions nuit et jour. Hein. On ne dormait pas les nuits. Hein. C'était toujours des scénarios. Quand je rentrais du boulot, on allait à la gendarmerie. La nuit, c'était des scénarios. Mais c'est pas possible. C'est à cause de ça. Est-ce que c'est ça, un accident? Et donc, la nuit, vous pensez. Et vous vous endormez au petit matin, puis vous vous réveillez.
Finalement, vous aviez raison de vous inquiéter, dès le début.
Bien sûr.
Est-ce que vous en voulez aux gendarmes?
Non, non, c'est du passé.
À Paris, les policiers n'ont rien tiré de Franck Ziegler. À Strasbourg, les enquêteurs ont plus de chance. Maintenant que Maurice les a conduits jusqu'au corps de Philippe Vuillet, ils peuvent poursuivre son interrogatoire. Maurice habite un hôtel social, avenue de Colmar, en plein centre de Mulhouse. Il raconte aux enquêteurs qu'il était chez lui le 17 mars, quand il a reçu un coup de téléphone. C'était Franck Ziegler, une vieille connaissance.
Maître Delphine Gilbert, avocate de Robert Maurice.
Robert Maurice se souvient de ce compagnon de détention qu'il a fréquenté à la maison centrale d'Ensisheim dans les années 90. Et Franck Ziegler lui dit, je suis à Mulhouse, est-ce que je peux venir te voir? J'ai nulle part où aller. Et Robert Maurice, qui est finalement somme toute assez content de cette arrivée, lui dit oui, viens chez moi, pas de problème. Il se retrouve dans Mulhouse. Pourquoi Franck Ziegler ressurgit dans sa vie, il n'en sait strictement rien.
Ziegler s'installe chez Maurice. Il lui raconte qu'il s'est fait agresser dans le train, dépouillé de toutes ses affaires et de ses papiers. Il travaille maintenant en Espagne. Il a même monté sa propre entreprise de sécurité. D'ailleurs, si Maurice veut venir, il y a du boulot pour lui. L'idée le séduit. Maurice en parle à Michel, son meilleur ami.
Maurice me dit, tu vois, Michel, il n'est pas impossible que je m'en aille. Et moi, sur le coup, quoi? Ah bon? Toi, tu vas t'en aller? J'ai dit à Maurice, disons, mais tu pars comment? À tes affaires et tout, comment tu vas les emmener? Mais il m'a dit, je sais pas, moi. Lui, il se débrouille, il va trouver une voiture.
Maurice raconte aux policiers que c'est lui qui a présenté Philippe à Ziegler. Ils se sont rencontrés chez lui le 19 mars. Le lendemain, en début d'après-midi, Maurice est sorti faire une course et a laissé son téléphone portable. Il imagine que Ziegler s'en est servi pour faire venir Philippe. Quand il est rentré, il les a trouvés ensemble.
Brigadier chef Pierre H., police judiciaire de Mulhouse.
Robert Maurice nous déclare, je suis rentré des courses et là je vois Philippe Vuillet qui est attablé avec Franck Ziegler. Donc les deux sont, d'après lui, dans une conversation tout à fait normale. Et à un moment, il nous déclare, Philippe ne se sentait pas bien, il n'allait pas très très bien.
Philippe a été pris de nausées. Il s'est levé pour partir. D'après Maurice, c'est là que Ziegler a sorti une bombe lacrymogène pour gazer Philippe en plein visage. Ziegler lui aurait ensuite ligoté les mains dans le dos avec de l'adhésif et avec sa ceinture. Maurice lui a demandé ce qu'il était en train de faire.
Maître Delphine Gilbert, avocate de Robert Maurice.
Franck Ziegler lui répond à ce moment-là que Philippe Vuet lui aurait reconnu quelques minutes auparavant être un pédophile et qu'il fallait donc faire quelque chose parce qu'on ne pouvait pas tolérer qu'un tel individu demeure comme ça en liberté.
Ziegler aurait alors expliqué qu'il avait mis des cachets dans le café de Philippe pour le droguer et que maintenant, il fallait l'emmener chez les gendarmes pour qu'il se dénonce. Cette explication semble suffire à Maurice. Il sait où Philippe a l'habitude de se garer. Il sort chercher la Clio. Puis il remonte à l'appartement et aide Franck Ziegler à descendre Philippe par l'escalier. Le jeune homme a les mains attachées. Il est groggy, mais il tient encore sur ses jambes.
Robert Maurice accepte de prêter son concours à Franck Ziegler parce que pour lui, on va à la gendarmerie. Alors, il est vrai que Philippe Vuet est entravé, mais pour Robert Maurice, il est neutralisé à ce moment-là. Et puisqu'il a reconnu être un pédophile, eh bien, il faut le conduire à la gendarmerie. Et donc, il suit. Il suit le mouvement.
D'après Maurice, tout ça s'est passé en plein milieu de l'après-midi. Ils sont sortis de l'immeuble et ils ont chargé Philippe à l'arrière de la voiture. Ziegler est monté à côté de lui et Maurice s'est mis au volant. Arrivé au niveau de la filature, une salle de spectacle, Ziegler lui a demandé de se garer. Comme il ne roulait pas assez vite, il a voulu conduire à sa place. Et là, il n'a pas pris la direction de la gendarmerie.
Robert Maurice s'en étonne auprès de Franck Ziegler, qui lui répond « Mais c'est pas comme ça qu'on s'occupe de ce genre d'individu. » Et la façon dont Franck Ziegler, semble-t-il, a répondu cette phrase ou ce type de formule à Robert Maurice a fait penser à Robert Maurice que celui-ci avait pété les plombs, et c'est d'ailleurs ce qu'il a dit aux enquêteurs. J'ai vraiment senti à ce moment-là qu'il se passait quelque chose et qu'il avait pété les plombs.
Brigadier chef Pierre H., police judiciaire de Mulhouse.
Et plus tard, dans la déclaration finale, il nous dira « J'ai compris à ce moment-là que l'objectif de Franck Ziegler, c'était de tuer Philippe Vuet. »
Et qu'a fait Robert Maurice à ce moment-là? À 17h03, il a envoyé un SMS à son ami Michel. Un SMS pour lui demander de dire qu'il avait passé toute l'après-midi chez lui, si jamais on l'interrogeait. Maurice raconte aux policiers qu'ils ont roulé en pleine campagne. Au beau milieu d'un virage, Ziegler a soudain quitté la route et s'est engagé à travers champs.
Robert Maurice dit que Franck Ziegler descend de la voiture en expliquant qu'il va uriner. En fait, il le voit se diriger vers le coffre de la voiture, fouiller dans le coffre, et quelques instants plus tard, ressortir avec une sangle à la main. Et il sort Philippe Vuet violemment de la voiture.
Selon Maurice, Philippe avait toujours les mains liées dans le dos. Ziegler l'a fait marcher vers le petit bois. Au bout de quelques mètres, il l'a jeté au sol. Il lui a passé la sangle autour du cou et a commencé à serrer. Maurice dit qu'il est resté près de la voiture et qu'il a assisté à toute la scène, tétanisé.
D'après ce que Robert Maurice raconte à ce moment-là, Franck Ziegler dit à Philippe Vuet « Ta femme m'a payé 150 000 euros pour que je te bute. »
Et là, Philippe Vuet est tombé des nues, il a dit « C'est pas vrai. » Et Franck Ziegler dit « Sur la tête de mes enfants, je te jure que c'est vrai. » Et là, il continue.
Ziegler aurait ensuite posé un genou sur le dos de Philippe pour serrer plus fort. Maurice raconte qu'il l'a entendu jurer. Il est dur à tuer, ce chien. C'est là qu'il a vu Ziegler revenir vers la voiture et prendre la manivelle du cric dans le coffre. Ziegler aurait frappé Philippe sur la nuque à plusieurs reprises. Maurice reconnaît qu'il n'a rien fait pour sauver Philippe. Il est resté là, sidéré.
Sur le moment, il raconte qu'il avait très peur de Franck Ziegler, qu'il savait pertinemment capable de s'en prendre à lui après coup, pour avoir vu déjà Franck Ziegler rentrer dans des colères noires à la maison centrale d'Ensisheim, s'en prendre à des co-détenus de manière totalement brutale et violente. Et il raconte qu'à ce moment-là, il est passif, qu'il n'est pas en mesure de réagir et il laisse Franck Ziegler mettre à mort Philippe Vuet sous ses yeux.
Ensuite, Ziegler s'est appuyé contre une machine agricole pour fumer une cigarette. Il a dit à Maurice qu'il prenait son pied quand il tuait quelqu'un. Et il lui a dit aussi que s'il parlait de ce qui venait de se passer, il s'occuperait de lui et aussi de son ami Michel.
Puis Ziegler aurait recouvert le corps de Philippe avec un tas de branchages. Maurice l'a vu faire un nœud avec la sangle autour du cou de Philippe. Mais il ne sait pas quand il l'a accroché à l'arbre. Après ça, Ziegler aurait volé les clés, le téléphone, le chéquier, les chaussures et tous les papiers de Philippe. Vers 19h30, Michel a vu revenir Maurice et Ziegler, avenue de Colmar.
C'est là que j'ai vu M. Maurice et M. Ziegler faire les bagages en commun. Carton, carton DVD, les papiers, l'imprimante, le scanner, enfin bon, tous ces papiers, tout ça. Et il me dit, Michel, on va faire un mot. Si tu veux la chambre, tu pourras la prendre. Ce qui reste dedans est à toi.
Michel les a aidés à charger le coffre de la Clio de Philippe. À 22h15, Maurice et Ziegler ont pris la route pour l'Espagne. Mais à 1h30 du matin, Maurice a rappelé Michel. Ziegler venait de le planter à Belfort en emportant toutes ses affaires. Maurice s'est même rendu au commissariat où il a porté plainte contre Ziegler pour vol. Ensuite, il est rentré à Mulhouse.
Il m'a dit, je crois que je me suis fait avoir. Comment ça? Ben, l'autre, il est parti, hein, avec la voiture et toutes les affaires dedans. J'ai dit, toi, il y a quelque chose qui traque, quelque chose. Ah. Il m'a dit, j'ai peur qu'il me fasse porter le chapeau. Mais j'ai dit, mais de quoi? Mais il dit pas plus. Il dit rien.
Dominique, l'autopsie a été réalisée à Strasbourg, mais le corps est en mauvais état.
Oui, en très mauvais état. Très mauvais état, Frédéric. Il est resté dehors pendant 15 jours et il est putréfié. Et on le sait qu'il est resté dehors parce qu'il est déjà habité, colonisé par des insectes, notamment au niveau du visage. Et les doigts ont été grignotés par des animaux nécrophages.
On arrive quand même à déterminer les causes de la mort.
Ça, on arrive à travailler sur un corps dans cet état. Et l'autopsie va permettre d'apprendre énormément de choses sur les circonstances de la mort de Philippe Vuillet. Alors, visuellement, cette trace de pendaison laissée par le lien, on a du mal à la voir parce que la chair est abîmée. Donc, on va les voir à l'intérieur. Et sur le larynx, il y a des ecchymoses. C'est-à-dire, il y a des traces d'appui. Et cette strangulation, ça correspond finalement à la version donnée par Maurice. Il y a aussi des traces d'hématomes dans le dos, dans la région cervico-dorsale. Alors ça peut avoir été provoqué par les coups de manivelle, qu'a reçu Philippe Vuillet. Ça peut aussi avoir été provoqué par l'appui du genou de Ziegler sur son dos. Quand Maurice dit, je l'ai vu l'étrangler. Toutes ces constatations, elles sont compatibles avec la version donnée par Maurice quand il dit, je l'ai vu l'étrangler, je l'ai vu le frapper. Sur les causes de la mort maintenant. L'autopsie parle d'une asphyxie mécanique provoquée par le lien qui a été passé autour du cou de Philippe Vuillet. Et il y a quelque chose de caractéristique, ce sont des lésions pulmonaires microscopiques, c'est-à-dire les vaisseaux dans les poumons claquent.
Et alors, est-ce qu'on sait s'il a été drogué, Philippe Vuillet?
Il a dans le sang un taux d'alcoolémie de 0,88 g, c'est pas énorme. En revanche, dans ses cheveux, on trouve des traces de Subutex.
C'est quoi le Subutex?
Alors, le Subutex, c'est un médicament qui est utilisé comme traitement de substitution à l'héroïne, hein, pour les toxicomanes. C'est aussi un analgésique, c'est-à-dire un médicament qu'on utilise pour lutter contre la douleur. C'est intéressant parce que le Subutex, c'est peut-être le médicament qui a été versé dans le café qu'a bu Philippe Vuillet. Et puis du Subutex, les policiers vont en retrouver au cours de la perquisition qu'ils vont mener à Paris, rue Popincourt, chez la copine de Ziegler, chez son ami. Il avait laissé quelques affaires chez elle. Et dans les sacs de Ziegler, on retrouve 6 boîtes de Subutex qui lui ont été prescrites par un médecin. Pourquoi? Parce qu'il avait mal à une jambe. Il s'était fait mal en faisant une mauvaise chute lors d'une tentative d'évasion.
Laurent Guy, dans sa version, Maurice charge Ziegler. Et lui, il dit qu'il n'a absolument pas participé au meurtre. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que c'est crédible?
Laurent Guy, vice-procureur de Colmar.
Alors, dans un premier temps, on pourrait penser que oui, parce que Robert Maurice est quelqu'un qui va, au départ, minimiser un petit peu sa participation. Ceci étant, à ce moment-là, il est seul en scène et il nous raconte la version qu'il veut, puisqu'il n'a pas de contradicteur.
Justement, Ziegler, d'après Maurice, lui aurait dit que Philippe Vuillet était pédophile. Vous avez vérifié donc, si ça pouvait être exact ou pas, ça ?
Effectivement vérifié, notamment auprès de deux témoins, puisque Maurice a dit qu'il tenait ça des personnes chez qui il travaillait avec Philippe Vuillet, notamment chez qui il faisait des travaux d'entretien ou de jardinage. Et ces deux témoins ont totalement nié ou contesté avoir jamais parlé de pédophilie de Philippe Vuillet ou d'un attrait malsain de Philippe Vuillet pour des enfants à Robert Maurice.
Il n'y a jamais eu aucune plainte contre lui dans ce sens.
Il n'a jamais été visé par aucune plainte. Il était absolument inconnu des services de gendarmerie et des services de police.
Et alors, Ziegler, il se décide à parler ou toujours pas ?
Franck Ziegler va absolument refuser de répondre aux questions des policiers et refuser de répondre aux questions du juge d'instruction.
Donc Ziegler et Maurice, tous les deux sont mis en examen.
Alors, ils sont mis en examen du chef d'assassinat, hein, c'est-à-dire l'homicide volontaire avec préméditation.
Et la compagne de Ziegler ?
Elle avait indiqué qu'elle avait vu des vêtements tachés de sang, qu'elle les avait lavés. Et donc, elle a été mise en examen pour recel et destruction de preuves.
Sans aveu de Ziegler, les policiers n'ont donc que la version de Maurice pour travailler. Ils décortiquent sa vie pour savoir jusqu'où il est crédible.
D'habitude, Robert Maurice reste très discret sur son passé. Mais il accepte de raconter son enfance à l'expert psychologue qui vient le voir en prison.
Carole Rabolini, experte psychologue.
Il dira « J'ai été retrouvée dans une poubelle entourée de journal. Mes parents n'avaient pas les moyens matériels de m'élever. » Il va connaître différents placements et finalement ne sortira de ces placements qu'à sa majorité.
Docteur Bernard Kirzek, expert psychiatre.
Ce qui apparaît d'emblée, effectivement, dans l'expertise de M. Maurice, c'est un certain nombre de traits de personnalité caractérisés par une certaine instabilité, caractérisés par une impulsivité, caractérisés par une succession de ruptures, de sentiments d'abandon qui ont émaillé toute sa enfance et son adolescence et qui vont se poursuivre durant l'âge adulte jusque le premier épisode où il va être donc inculpé et incarcéré pendant un certain nombre d'années.
Pendant des années, Maurice vit dans la rue où il multiplie les petits larcins et les cambriolages. À 30 ans, il bascule, il tue un homosexuel à coups de couteau. Il prend 18 ans de prison. C'est là qu'il rencontre Ziegler. Les deux hommes s'entendent bien, ils ont la même obsession.
Maître Delphine Gilbert, avocate de Robert Maurice.
Franck Ziegler et Robert Maurice ont ce point commun d'exécrer particulièrement les personnes condamnées pour des agressions sexuelles ou des viols. Et c'est vrai que Franck Ziegler, d'après ce que dit Robert Maurice, il s'en est déjà pris physiquement et violemment à un certain nombre de pointeurs, puisque c'est ainsi que les détenus appellent ces personnes condamnées pour des infractions de cet ordre.
Maurice déteste les délinquants sexuels, en particulier les pédophiles. Les policiers sont donc très surpris de découvrir quelques photos pornographiques de jeunes garçons dans son ordinateur. Ou encore, d'apprendre que des jeunes du quartier squattaient souvent son appartement. Les témoins qui leur parlent de ces visites trouvaient ça malsain.
Ces jeunes gens, c'est quand même des jeunes paumés comme lui, en fait. Et je crois qu'il s'est un petit peu comporté comme un grand frère envers eux, en ouvrant la porte de son appartement, en leur laissant se servir d'Internet, en les laissant regarder, parce qu'il avait une collection importante de DVD, de films, Monsieur Maurice. Il les laissait venir chez lui, tout simplement parce qu'il dit « Moi, je pouvais pas les laisser dans la rue. » Et je pense que c'est véritablement par projection à son histoire personnelle, en fait.
Maurice est formel. Il affirme aux policiers qu'il n'est pas homosexuel et encore moins pédophile. Sa vie ? Depuis sa sortie de prison en 1995, il se tient à carreau. Ce qu'il veut, c'est du travail. Il a fait plusieurs contrats chez Peugeot près de Mulhouse.
Laurent, collègue de Robert Maurice.
Il a fait 4 missions intérim. Et il a, bon, c'est vrai qu'il galérait pour avoir un CDI au bout, quoi. Et bon, c'est vrai que vu son âge aussi, c'était pas évident. Mais bon, c'est vrai que c'est un gars qui aurait mérité d'être embauché. Parce que c'est vrai que c'était un gars qui bossait. Il bossait tout le temps. Quand on le connaît, c'est une personne qui a le cœur sur la main. Il est prêt à vous donner sa chemise, il est prêt à vous donner des sous, il est prêt à vous donner n'importe quoi. Ça lui arrivait que je lui prêtais des sous, vu que c'était une personne qui était payée le 13 du mois. À la fin du mois, le 13, il vous le rendait avec un restaurant derrière, avec... Il participait toujours aux frais de carburant, il n'y avait jamais de soucis.
Pour ses collègues, Maurice est un type généreux. Pour Sylvie, c'est tout autre chose. Elle l'a rencontré à l'époque où il travaillait avec Philippe.
Dès qu'il avait besoin d'une voiture pour aller à un endroit ou à un autre, il appelait Philippe pour l'emmener. Je sais qu'il l'a emmené sur Strasbourg, en Allemagne. Il l'a emmené dans les quatre coins de la région. J'ai même dit à Philippe, il serait temps de plus rendre service comme ça à Robert Maurice parce que je trouve qu'il abuse. Est-ce qu'il te paye l'essence ? Non, non, mais c'est un bon pote, il faut l'aider. Voilà ce qu'il me répondait.
Pour Sylvie, Maurice est un profiteur. Ce qui l'intéressait chez Philippe, c'était sa voiture.
Carole Rabolini, experte psychologue.
Finalement, il est dans des relations, et je pense quasi exclusivement dans des relations utilitaires, où l'autre occupe une place d'objet qui va lui servir à quelque chose. C'est notamment ce qu'il va dire, c'est la première chose d'ailleurs qu'il va énoncer à propos de la victime, Monsieur Vuillet, où il va dire « celui-ci me promenait ».
C'est là que Ziegler sort subitement de son silence. Depuis sa cellule, il écrit au juge, Stéphane Galland, pour lui dire qu'il est prêt à s'expliquer. Mais chaque fois que le juge le convoque, il refuse systématiquement de sortir de cellule. Ce petit jeu « j'y vais pas » semble l'amuser et va durer un certain temps.
En mars 2008, Frank Ziegler écrit de nouveau au juge d'instruction. « J'aime jouer aux échecs. J'aurai plaisir à jouer cette partie avec vous, car vous êtes un adversaire à ma hauteur. Gagner, perdre, ça n'a aucune importance. Ce qui en a, par contre, c'est qui je suis et ce dont je suis capable. »
Stéphane Galland, juge d'instruction.
« Il y a certains courriers qu'il m'adresse qui sont en effet teintés de menaces plus ou moins claires, oui. Il y a un courrier en particulier dans lequel Frank Ziegler écrit qu'il aura vraisemblablement l'occasion de reparler de ce dossier avec moi lorsqu'il aura prouvé son innocence et lorsqu'il ne sera plus dans la situation de la personne accusée ou mise en examen et que les choses se présenteront sûrement de manière très différente. »
Ziegler reproche au juge d'avoir mis en examen sa copine à Paris. Il sous-entend qu'il sait des choses sur le meurtre de Philippe, mais il ne parlera que si on le change de prison. Dans un autre courrier, Ziegler s'accuse d'avoir commis plus de 20 meurtres avant de se rétracter.
Maître Karine Laprévotte, avocate de Frank Ziegler.
Frank Ziegler va jouer très clairement au jeu du chat et de la souris avec le juge qui, pour lui, a déjà préjugé de sa situation. Frank Ziegler, du coup, va réagir comme il le fait, c'est-à-dire en essayant d'être plus menaçant et de montrer que c'est lui qui commande finalement le jeu. Donc il va essayer d'avoir le dessus sur le juge d'instruction.
Vous venez d'écouter le deuxième épisode de Faites entrer l'accusé consacré à Maurice et Ziegler. Retrouvez la suite de l'affaire dans l'épisode 3. Bonjour, c'est Dominique Rizet. Une poignée de secondes, voilà tout ce qu'il faut pour qu'une vie bascule. Juste une poignée de secondes. Un sursaut, un instant où le destin bifurque dans une direction ou dans l'autre.
Sur le coup, je pensais pas qu'il était mort parce que je voyais pas de sang, on voyait rien, quoi, en fait. Sébastien s'est jeté sur son père.
L'affaire Grégory, l'affaire Daval, l'affaire Cahuzac, vous les connaissez toutes. Ça fait 40 ans que je vous raconte ces destins brisés. Aujourd'hui, dans l'instant où, découvrez les confessions de ceux qui sont au cœur de ces affaires. Ils me racontent et vous racontent ce qu'ils ne pourront jamais oublier.
L'instant où, un podcast BFM TV raconté par Dominique Rizet.